Chapitre 179. Deux vieux amis. Tandis que chacun pensait à ses affaires à la cour, un homme se rendait mystérieusement derrière la place de Grève, dans une maison qui nous est déjà connue pour l'avoir vue assiégée, un jour d'émeute, par D'Artagnan. Cette maison avait sa principale entrée par la place Baudoyer. Assez grande, entourée de jardins, ceinte dans la rue Saint-Jean par des boutiques de taillandiers qui la garantissaient des regards curieux, elle était renfermée dans ce triple rempart de pierre, de bruit et de verdure, comme une momie parfumée dans sa triple boîte. L'homme dont nous parlons marchait d'un pas assuré, bien qu'il ne fût pas de la première jeunesse. À voir son manteau couleur de muraille et sa longue épée qui relevait ce manteau, nul n'eût pu reconnaître le chercheur d'aventure. Et si l'on eût bien consulté ce croc de moustache relevé, cette peau fine et lisse qui apparaissait sous le sombrero, comment ne pas croire que les aventures dussent être galantes? En effet, à peine le cavalier fut-il entré dans la maison que 8 heures sonnèrent à Saint-Gervais. Et 10 minutes après, une dame, suivie d'un laquais armé, vint frapper à la même porte qu'une vieille suivante lui ouvrit aussitôt. Cette dame leva son voile en entrant. Ce n'était plus une beauté, mais c'était encore une femme. Elle n'était plus jeune, mais elle était encore alerte et d'une belle prestance. Elle dissimulait, sous une toilette riche et de bon goût, un âge que Ninon de l'Enclos seul affronta en souriant. À peine fut-elle dans le vestibule que le cavalier, dont nous n'avons fait qu'esquisser les traits, vint à elle en lui tendant la main. « Chère duchesse, dit-il, bonjour. »«
Bonjour, mon cher Aramis, répliqua la duchesse. »
Il la conduisit à un salon élégamment meublé, dont les fenêtres hautes s'empourpraient des derniers feux du jour, tamisées par les cimes noires de quelques sapins. Tous deux s'assirent côte à côte. Ils n'eurent ni l'un ni l'autre la pensée de demander de la lumière et s'ensevelirent ainsi dans l'ombre comme s'ils eussent voulu s'ensevelir mutuellement dans l'oubli.
« Chevalier, dit la duchesse, vous ne m'avez plus donné signe d'existence depuis notre entrevue de Fontainebleau. Et j'avoue que votre présence, le jour de la mort du franciscain, j'avoue que votre initiation à certains secrets m'ont donné le plus vif étonnement que j'ai eu de ma vie.
Je puis vous expliquer ma présence, je puis vous expliquer mon initiation, dit Aramis.
Mais avant tout, répliqua vivement la duchesse, parlons un peu de nous. Voilà longtemps que nous sommes de bons amis.
Oui, madame, et s'il plaît à Dieu, nous le serons, sinon longtemps, du moins toujours.
Oui, madame, et s'il plaît à Dieu, nous le serons, sinon longtemps, du moins toujours.
Cela est certain, chevalier, et ma visite en est un témoignage.
Nous n'avons plus à présent, madame la duchesse, les mêmes intérêts qu'autrefois, dit Aramis en souriant sans crainte dans cette pénombre, car on n'y pouvait deviner que son sourire fût moins agréable et moins frais qu'autrefois.
« Aujourd'hui, chevalier, nous avons d'autres intérêts. Chaque âge apporte les siens, et comme nous nous comprenons aujourd'hui, en causant, aussi bien que nous le faisions autrefois sans parler, causons. Voulez-vous ?»«
Duchesse, à vos ordres. »«
Ah, pardon, comment avez-vous donc retrouvé mon adresse? Et pourquoi ?»«
Pourquoi ? Je vous l'ai dit, la curiosité. » Je voulais savoir ce que vous êtes à ce franciscain avec lequel j'avais affaire et qui est mort si étrangement. Vous savez qu'à notre entrevue à Fontainebleau, dans ce cimetière, au pied de cette tombe récemment fermée, nous fûmes émus l'un et l'autre au point de ne nous rien confier l'un à l'autre.
Oui, madame.
Eh bien, je ne vous eus pas plutôt quitté que je me repentis. J'ai toujours été avide de m'instruire. Vous savez que Madame de Longueville est un peu comme moi, n'est-ce pas ?
Je ne sais, dit Aramis discrètement.
Je me rappelais donc, continua la duchesse, que nous n'avions rien dit dans ce cimetière, ni vous de ce que vous étiez à ce franciscain,
dont vous avez surveillé l'inhumation, ni moi de ce que je lui étais. Aussi, tout cela m'a paru indigne de deux bons amis comme nous, et j'ai cherché l'occasion de me rapprocher de vous pour vous donner la preuve que je vous suis acquise et que Marie Michon, la pauvre morte, a laissé sur terre une ombre pleine de mémoire. »
Aramis s'inclina sur la main de la duchesse et y déposa un galant baiser.
« Vous avez dû avoir quelque peine à me retrouver, » dit-il.
« Oui, » fit-elle, contrariée d'être ramenée à ce que voulait savoir Aramis. « Mais je vous savais ami de M. Fouquet. J'ai cherché près de M. Fouquet. »«
Ami ? Oh ! » s'écria le chevalier, « vous dites trop, madame. Un pauvre prêtre favorisé par ce généreux protecteur, un cœur plein de reconnaissance et de fidélité, voilà tout ce que je suis à M. Fouquet. »
« Il vous a fait évêque ?»«
Oui, duchesse. »«
Mais, beau mousquetaire, c'est votre retraite ?»«
Comme à toi l'intrigue politique, » pensa Aramis.
« Or, » ajouta-t-il, « vous vous en quittez auprès de M. Fouquet ?»«
Facilement. Vous aviez été à Fontainebleau avec lui, vous aviez fait un petit voyage à votre diocèse, qui est Belle-Île-en-Mer, je crois. »
« Non pas, non pas, madame, » dit Aramis, « mon diocèse est Vannes. »
« C'est ce que je voulais dire. Je croyais seulement que Belle-Île-en-Mer est une maison à M. Fouquet, voilà tout. »«
Ah, c'est qu'on m'avait dit que Belle-Île-en-Mer était fortifiée. Or, je vous sais homme de guerre, mon ami. »
« J'ai tout désappris depuis que je suis d'église, » dit Aramis piqué.
« Il suffit. » « J'ai donc su que vous étiez revenu de Vannes et j'ai envoyé chez un ami, M. le comte de la Fère. »«
Ah ! » fit Aramis.
« Celui-là est discret. Il m'a fait répondre qu'il ignorait votre adresse. »
« Toujours Athos, » pensa l'évêque. « Ce qui est bon est toujours bon. » »«
Alors vous savez que je ne puis me montrer ici et que la reine-mère a toujours contre moi quelque chose. »
« Mais oui. » Et je m'en étonne.
Oh, cela tient à toutes sortes de raisons. Mais passons. Je suis forcée de me cacher. J'ai donc par bonheur rencontré M. d'Artagnan, un de vos anciens amis, n'est-ce pas ?
Un de mes amis présents, duchesse.
Il m'a renseigné, lui. Il m'a envoyé à M. de Baisemeaux, le gouverneur de la Bastille.
Aramis frissonna et ses yeux dégagèrent dans l'ombre une flamme qu'il ne put cacher à sa clairvoyante amie.
« Monsieur de Baisemeaux, » dit-il, « et pourquoi d'Artagnan vous envoya-t-il à Monsieur de Baisemeaux ?»«
Ah, je ne sais. »«
Que veut dire ceci ?» dit l'évêque en résumant ses forces intellectuelles pour soutenir dignement le combat.
« Monsieur de Baisemeaux était votre obligé, » m'a dit d'Artagnan.
« C'est vrai. »
Et l'on sait toujours l'adresse d'un créancier comme celle d'un débiteur.
C'est encore vrai.
Alors Baisemeaux vous a indiqué
Saint-Mandé, où je vous ai fait tenir une lettre.
Que voici et qui m'est précieuse, dit Aramis, puisque je lui dois le plaisir de vous voir.
La duchesse, satisfaite d'avoir ainsi effleuré sans malheur toutes les difficultés de cette exposition délicate, respira. Aramis ne respira pas.
Nous en étions, dit-il, à votre visite à Baisemeaux.
Non, dit-elle en riant, plus loin.
Alors c'est à votre rancune contre la reine-mère?
Plus loin encore, reprit-elle, plus loin. Nous en sommes au rapport.
C'est simple, reprit la duchesse en prenant son parti.
Vous savez que je vis avec Monsieur de Lecq?
Oui, madame.
Un quasi-époux ?
On le dit.
À Bruxelles ?
Oui.
Vous savez que mes enfants m'ont ruiné et dépouillé ?
Ah, quelle misère, duchesse !
C'est affreux. Il a fallu que je m'ingéniasse à vivre et surtout à ne point végéter.
Cela se conçoit.
J'avais des haines à exploiter, des amitiés à servir. Je n'avais plus de crédit. Plus de protecteur.
Vous qui avez protégé tant de gens, dit suavement Aramis.
C'est toujours comme cela, chevalier. Je vis en ce temps le roi d'Espagne. »
Ah !
Qui venait de nommer un général des jésuites, comme c'est l'usage.
Ah, c'est l'usage?
Vous l'ignoriez?
Pardon, j'étais distrait.
En effet, vous devez savoir cela, vous qui étiez en si bonne intimité avec le franciscain.
Avec le général des jésuites, vous voulez dire?
Précisément. Donc, je vis le roi d'Espagne. Il me voulait du bien et ne pouvait m'en faire. Il me recommanda cependant dans les Flandres, moi et Lec, et me fit donner une pension sur les fonds de l'ordre.
Des jésuites?
Oui, le général, le franciscain, me fut envoyé.
Très bien.
Et comme, pour régulariser la situation, d'après les statuts de l'ordre, je devais être censé rendre des services, vous savez que c'est la règle?
Je l'ignorais.
Madame de Chevreuse s'arrêta pour regarder Aramis, mais il faisait nuit sombre.
« Eh bien, c'est la règle, » reprit-elle. « Je devais donc paraître avoir une utilité quelconque. Je proposais de voyager pour l'ordre et l'on me rangea parmi les affiliés voyageurs. Vous comprenez que c'était une apparence et une formalité. »
« À merveille.
Ainsi touchais-je ma pension, qui était fort convenable. »
« Mon Dieu, duchesse, ce que vous me dites là est un coup de poignard pour moi. Vous, obligée de recevoir une pension des jésuites ?»«
Non, chevalier, de l'Espagne. »
« Ah, sauf le cas de conscience, duchesse, vous m'avouerez que c'est bien la même chose. »
« Non, non, pas du tout. Mais enfin, de cette belle fortune, il reste bien... »«
Il me reste Dampierre, voilà tout. »
« C'est encore très beau. »
Oui, mais Dampierre grevé, Dampierre hypothéqué, Dampierre un peu ruiné, comme la propriétaire.
Et la reine-mère voit tout cela d'un œil sec, dit Aramis avec un curieux regard qui ne rencontra que ténèbres.
Oui, elle a tout oublié.
Vous avez, ce me semble, duchesse, essayé de rentrer en grâce?
Oui, mais par une singularité qui n'a pas de nom. Ne voilà-t-il pas que le petit roi hérite de l'antipathie que son cher père avait pour ma personne? Ah, me direz-vous, je suis bien une de ces femmes que l'on hait. Je ne suis plus de celles que l'on aime.
Chère duchesse, arrivons vite, je vous prie, à ceux qui vous amènent, car je crois que nous pouvons nous être utiles l'un à l'autre.
Je l'ai pensé. Je venais donc à Fontainebleau dans un double but. D'abord, j'y étais mandée par ce franciscain que vous connaissez. À propos, comment le connaissez-vous? Car je vous ai raconté mon histoire et vous ne m'avez pas conté la vôtre.
Je le connus d'une façon bien naturelle, duchesse. J'ai étudié la théologie avec lui à Parme. Nous étions devenus amis et tantôt les affaires, tantôt les voyages, tantôt la guerre nous avaient séparés.
Vous saviez bien qu'il fut général des jésuites?
Je m'en doutais.
Mais enfin, par quel hasard étrange veniez-vous, vous aussi, à cette hôtellerie où se réunissaient les affiliés voyageurs?
Oh, dit Aramis d'une voix calme, c'est un pur hasard. Moi, j'allais à Fontainebleau chez M. Fouquet pour avoir une audience du roi. Moi, je passais. Moi, j'étais inconnu. Je vis par le chemin ce pauvre moribond et je le reconnus. Vous savez le reste, il expira dans mes bras.
Oui, mais en vous laissant dans le ciel et sur la terre une si grande puissance que vous donnâtes en son nom des ordres souverains.
Il me chargea effectivement de quelques commissions.
Et pour moi,
je vous l'ai dit, une somme de 12 000 livres à payer.
Je crois vous avoir donné la signature nécessaire pour toucher.
Ne touchâtes-vous pas?
Si fait, si fait! Oh, mon cher prélat, vous donnez ces ordres, m'a-t-on dit, avec un tel mystère et une si auguste majesté que l'on vous crut généralement le successeur du cher défunt.
Aramis rougit d'impatience. La duchesse continua.
Je m'en suis informée, dit-elle, près du roi d'Espagne. Et il éclaircit mes doutes sur ce point. Tout général des jésuites est, à sa nomination,
et doit être espagnol d'après les statuts de l'ordre. Vous n'êtes pas espagnol et vous n'avez pas été nommé par le roi d'Espagne. »
Aramis ne répliqua rien que ces mots. « Vous voyez bien, duchesse, que vous étiez dans l'erreur, puisque le roi d'Espagne vous a dit cela. »«
Oui, cher Aramis, mais il y a autre chose que j'ai pensé, moi. »«
Quoi donc ?
Vous savez que je pense un peu à tout ?»«
Oh oui, duchesse. »«
Vous savez l'espagnol ?
Tout français qui a fait sa fronde, c'est l'espagnol. »«
Vous avez vécu dans les Flandres ?
3 ans. »«
Vous êtes passé à Madrid ?
15 mois. »
Vous êtes donc en mesure d'être naturalisé espagnol quand vous le voudrez.
Vous croyez ? Fit Aramis avec une bonhomie qui trompa la duchesse.
Sans doute, 2 ans de séjour et la connaissance de la langue sont des règles indispensables. Vous avez 3 ans et demi, 15 mois de trop.
Où voulez-vous en venir, chère dame ?
À ceci, je suis bien avec le roi d'Espagne.
Je n'y suis pas mal, pensa Aramis. «
Voulez-vous, continua la duchesse, que je demande pour vous, au roi, la succession du franciscain ?»«
Oh, duchesse !
Vous l'avez peut-être, dit-elle.
« Non, sur ma parole.
Eh bien, je puis vous rendre ce service. »«
Pourquoi ne l'avez-vous pas rendu à monsieur de Lecque, duchesse ? C'est un homme plein de talent et que vous aimez. » »«
Oui, certes, mais cela ne s'est pas trouvé. » Enfin, répondez, lec ou pas lec, voulez-vous ?
Duchesse, non, merci.
Il est nommé, pensa-t-elle.
Si vous me refusez ainsi, reprit madame de Chevreuse, ce n'est pas m'en rendre à vous demander pour moi.
Oh, demandez, demandez.
Demandez, je ne le puis, si vous n'avez pas le pouvoir de m'accorder.
Si peu que je puisse, demandez toujours.
J'ai besoin d'une somme d'argent pour faire réparer Dampierre.
Ah ! Répliqua Aramis froidement.
De l'argent ?
Voyons, duchesse, combien serait-ce ?
Oh, une somme ronde ?
Tant pis, vous savez que je ne suis pas riche ?
Vous, non, mais l'ordre.
Si vous eussiez été général ?
Vous savez que je ne suis pas général.
Alors vous avez un ami qui, lui, doit être riche, monsieur Fouquet.
Monsieur Fouquet, madame, il est plus qu'à moitié ruiné.
On le disait, et je ne voulais pas le croire.
Pourquoi, duchesse ?
Parce que j'ai du cardinal Mazarin quelques lettres, c'est-à-dire lesque les a, qui rétablissent des comptes étranges.
Quels comptes ?
C'est à propos de rentes vendues, d'emprunts faits, je ne me souviens plus bien. Toujours est-il que le surintendant, d'après des lettres signées Mazarin, aurait puisé une 30aine de millions dans les coffres de l'État. Le cas est grave.
Aramis enfonça ses ongles dans sa main.
« Quoi ? Dit-il. Vous avez des lettres semblables et vous n'en avez pas fait part à M. Fouquet ?»«
Ah ! Répliqua la duchesse, ces sortes de choses sont des réserves que l'on garde. Le jour du besoin venu, on les tire de l'armoire. »«
Et le jour du besoin est venu ? Dit Aramis.
« Oui, mon cher. »
Oui, mon cher.
Et vous allez montrer ces lettres à monsieur Fouquet ?
J'aime mieux vous en parler à vous.
Il faut que vous ayez bien besoin d'argent, pauvre ami, pour penser à ces sortes de choses, vous qui teniez en si piètre estime la prose de monsieur de Mazarin.
J'ai, en effet, besoin d'argent.
Et puis, continua Aramis d'un ton froid, vous avez dû vous faire peine à vous-même en recourant à cette ressource. Elle est cruelle.
« Oh, si j'eusse voulu faire le mal et non le bien, » dit madame de Chevreuse, « au lieu de demander au général de l'ordre ou à monsieur Fouquet les 500 000 livres dont j'ai besoin. »«
500 000 livres ?
Pas davantage. Trouvez-vous que ce soit beaucoup ? Il faut cela, au moins, pour réparer Dampierre. »
« Oui, madame. »
« Je dis donc qu'au lieu de demander cette somme, j'eusse été trouver mon ancienne amie, la reine-mère, les lettres de son époux, le signor Mazarini, m'eussent servi d'introduction, et je lui eusse demandé cette bagatelle en lui disant « Madame, je veux avoir l'honneur de recevoir votre majesté à Dampierre. Permettez-moi de mettre Dampierre en état. »
Aramis ne répliqua pas un mot.
« Eh bien, dit-elle, à quoi songez-vous ?
Je fais des additions, dit Aramis.
et M. Fouquet fait des soustractions. Moi, j'essaie de multiplier. Les beaux calculateurs que nous sommes. Comme nous pourrions nous entendre.
Vous me permettez de réfléchir, dit Aramis.
Non, pour une semblable ouverture, entre gens comme nous, c'est oui ou non qu'il faut répondre, et cela tout de suite.
C'est un piège, pensa l'évêque. Il est impossible qu'une pareille femme soit écoutée d'Anne d'Autriche.
Eh bien, fit la duchesse.
Eh bien, madame, je serais fort surpris si M. Fouquet pouvait disposer de 500 000 livres à cette heure.
Il n'en faut donc plus parler, dit la duchesse, et Dampierre se restaurera comme il pourra.
Oh, vous n'êtes pas, je suppose, embarrassée à ce point?
Non, je ne suis jamais embarrassée.
Et la reine fera certainement pour vous, continua l'évêque, ce que le surintendant ne peut faire.
Oh, mais oui! Dites-moi, vous ne voulez pas, par exemple, que je parle moi-même à M. Fouquet de ces lettres?
Vous ferez, à cet égard, duchesse, tout ce qu'il vous plaira. Mais M. Fouquet se sent ou ne se sent pas coupable. S'il l'est, je le sais assez fier pour ne pas l'avouer. S'il ne l'est pas, il s'offensera fort de cette menace.
Vous raisonnez toujours comme un ange.
Et la duchesse se leva.
Ainsi, vous allez dénoncer M. Fouquet à la reine, dit Aramis. Dénoncer? Oh, le vilain mot! Je ne dénoncerai pas, mon cher ami. Vous savez trop bien la politique pour ignorer comment ces choses-là s'exécutent. Je prendrai parti contre M. Fouquet, voilà tout.
C'est juste.
Et dans une guerre de parti, une arme est une arme.
Sans doute.
Une fois bien remise avec la reine-mère, je puis être dangereuse.
C'est votre droit, duchesse.
J'en userai, mon cher ami.
Vous n'ignorez pas que M. Fouquet est au mieux avec le roi d'Espagne, duchesse.
Oh, je le suppose.
M. Fouquet, si vous faites une guerre de parti comme vous dites, vous en fera une autre.
Ah, que voulez-vous?
Ce sera son droit aussi, n'est-ce pas?
Certes.
Et, comme il est bien avec l'Espagne, il se fera une arme de cette amitié.
Vous voulez dire qu'il sera bien avec le général de l'ordre des Jésuites, mon cher Aramis?
Cela peut arriver, duchesse.
Et qu'alors, on me supprimera la pension que je touche par là?
J'en ai bien peur.
On se consolera. Eh, mon cher, après Richelieu, après la Fronde, après l'exil, qu'y a-t-il à redouter pour Madame de Chevreuse?
La pension, vous le savez, est de 48 000 livres.
Hélas, je le sais bien.
De plus, quand on fait la guerre de parti, on frappe, vous ne l'ignorez pas, sur les amis de l'ennemi.
Ah, vous voulez dire qu'on tombera sur ce pauvre Lec?
C'est presque inévitable, duchesse.
Oh, il ne touche que 12 000 livres de pension.
Oui, mais le roi d'Espagne a du crédit. Consulté par M. Fouquet, il peut faire enfermer M. Lec dans quelque forteresse.
Je n'ai pas grand-peur de cela, mon bon ami, parce que, grâce à une réconciliation avec Anne d'Autriche, j'obtiendrai que la France demande la liberté de Lec.
C'est vrai, alors vous aurez d'autres choses à redouter.
Quoi donc? Fit la duchesse en jouant la surprise et l'effroi.
Vous saurez, et vous savez qu'une fois affilié à l'ordre, on n'en sort pas sans difficulté. Les secrets qu'on a pu pénétrer sont malsains, ils portent avec eux des germes de malheur pour quiconque les révèle.
La duchesse réfléchit un moment. Voilà qui est plus sérieux, dit-elle. J'y aviserai.
Et, malgré l'obscurité profonde, Aramis sentit un regard brûlant comme un fer rouge s'échapper des yeux de son ami pour venir plonger dans son cœur.
Récapitulons, dit Aramis, qui se tint alors sur ses gardes et glissa sa main sous son pourpoint où il avait un stylet caché.
C'est cela, récapitulons. Les bons comptes font les bons amis.
La suppression de votre pension.
48 000 livres. Et celle de Lec, 12, font 60 000 livres. Voilà ce que vous voulez dire, n'est-ce pas?
Précisément. Et je cherche le contrepoids que vous trouvez à cela.
500 000 livres que j'aurai chez la reine.
Ou que vous n'aurez pas.
Je sais le moyen de les avoir, dit étourdiment la duchesse.
Ces mots firent dresser l'oreille au chevalier. À partir de cette faute de l'adversaire,
son esprit fut tellement en garde que lui profita toujours et qu'elle, par conséquent, perdit l'avantage.
« J'admets que vous ayez cet argent, » reprit-il. « Vous perdrez le double, ayant 100 000 francs de pension à toucher au lieu de 60 000, et cela pendant 10 ans.
« Non, car je ne souffrirai cette diminution de revenus que pendant la durée du ministère de M. Fouquet. Or, cette durée, je l'évalue à 2 mois.
« Ah !» fit Aramis.
« Je suis franche, comme vous voyez. »
« Je vous remercie, duchesse, mais vous auriez tort de supposer qu'après la disgrâce de M. Fouquet, l'ordre recommencerait à vous payer votre pension. »«
Je sais le moyen de faire financer l'ordre, comme je sais le moyen de faire contribuer la reine-mère. »«
Alors, duchesse, nous sommes tous forcés de baisser pavillon devant vous. À vous la victoire, à vous le triomphe. Soyez clémente, je vous en prie, sonnez clairon. »
« Comment est-il possible, reprit la duchesse, sans prendre garde à l'ironie, que vous reculiez devant 500 000 malheureuses livres quand il s'agit de vous épargner, à votre ami, pardon, à votre protecteur, un désagrément comme celui que cause une guerre de parti ?»«
Duchesse, voici pourquoi. C'est qu'après les 500 000 livres, M. de Lecq demandera sa part, qui sera aussi de 500 000 livres, n'est-ce pas ?» C'est qu'après la part de M. Lecq et la vôtre viendront la part de vos enfants, celle de vos pauvres, de tout le monde, et que des lettres, si compromettantes qu'elles soient, ne valent pas 3 à 4 millions.
Vrai Dieu, duchesse, les ferrets de la reine de France valaient mieux que ces chiffons signés Mazarin, et pourtant ils n'ont pas coûté le quart de ce que vous demandez pour vous.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais le marchand prise sa marchandise ce qu'il veut. C'est à l'acheteur d'acquérir ou de refuser.
Tenez, duchesse, voulez-vous que je vous dise pourquoi je n'achèterai pas vos lettres?
Dites.
Les lettres de Mazarin sont fausses.
Allons donc.
Sans doute, car il serait pour le moins étrange que, brouillé avec la reine par M. Mazarin, vous eussiez entretenu avec ce dernier un commerce intime. Cela sentirait la passion, l'espionnage, la... Ma foi, je ne veux pas dire le mot.
Dites toujours.
La complaisance.
Tout cela est vrai.
Mais ce qui ne l'est pas moins, c'est ce qu'il y a dans la lettre.
Je vous jure, duchesse, que vous ne pourrez pas vous en servir auprès de la reine.
Oh, que si fait, je puis me servir de tout auprès de la reine.
Bon. Pensa Aramis. Chante donc, pigrièche, siffle donc, vipère.
Mais la duchesse en avait assez dit. Elle fit 2 pas vers la porte. Aramis lui gardait une disgrâce. L'imprécation que fait entendre le vaincu derrière le char du triomphateur. Il sonna. Des lumières parurent dans le salon. Alors l'évêque se trouva dans un cercle de lumière qui resplendissait sur le visage défait de la duchesse. Aramis attacha un long et ironique regard sur ses joues pâlies et desséchées, sur ses yeux dont l'étincelle s'échappait de 2 paupières nues, sur cette bouche dont les lèvres enfermaient avec soin des dents noircies et rares. Il affecta, lui, de poser gracieusement sa jambe pure et nerveuse, sa tête lumineuse et fière. Il sourit pour laisser entrevoir ses dents, qui, à la lumière, avaient encore une sorte d'éclat. La coquette vieillie comprit le gaillant railleur. Elle était justement placée devant une grande glace où toute sa décrépitude, si soigneusement dissimulée, apparut manifeste par le contraste. Alors, sans même saluer Aramis, qui s'inclinait, souple et charmant comme le mousquetaire d'autrefois, elle partit d'un pas vacillant et alourdi par la précipitation. Aramis glissa comme un zéphyr sur le parquet pour la conduire jusqu'à la porte. Madame de Chevreuse fit un signe à son grand laquais qui reprit le mousqueton et elle quitta cette maison où 2 amis si tendres ne s'étaient pas entendus pour s'être trop bien compris.